Chapitre 7. Papette avait quitté Paris depuis un mois. Le mariage d'Amélie avec Charles Rayard était accepté tacitement par les deux familles. Mais Madame Cassagnole, avant d'entamer avec les Rayard un entretien définitif, désirait obtenir l'adhésion formelle de son père. Pour l'obtenir, elle ne savait pas de moyen plus efficace que de lui démontrer le détachement de Gustave vis-à-vis d'Amélie. Et comment pouvait-elle établir cette démonstration, sinon par la ruse et le mensonge, en faisant de Gustave lui-même le complice inconscient de ses projets? Habituée à tout régenter à sa guise, elle ne doutait pas du pouvoir de son astuce, parce qu'elle avait intérêt à y croire. Gustave, poète aussi glorieux de ses sentiments de générosité, de noblesse, que d'autres hommes le sont de leur naissance ou de leur fortune, ne comprendrait-il pas que sa situation vraiment trop précaire ne lui permettait pas d'assurer, à Paris, la vie d'un ménage? Pourquoi n'admettrait-il pas que son ami de marraine profitât de l'occasion, qui se présentait à l'improviste, de contracter à 20 ans un beau mariage? Il ne donnait plus de ses nouvelles, par timidité certainement. Ou bien, depuis son séjour à Paris, il avait rencontré une amie qui entendait plus agréablement qu'Amélie son langage de poète. Rose, ainsi que sa fille, se flattèrent de l'attirer sans peine par leurs protestations d'amitié, à Paris comme à Marennes, dans leur appartement, où ils ne tarderaient guère à se lier avec le fils Rayard, dont les relations pourraient d'ailleurs le servir. Un après-midi, que le soleil caressait gaiement la ville tapageuse, elles s'en allèrent hardiment le trouver chez son maître rucois. La maison de la rue Merlin sommeillait, auprès de la route déserte des fortifications. Dans l'escalier tapissé de rouge, une ombre opaque, où miroitait une rampe de bois, inspirait une sorte de crainte. Au cinquième, ce fut Madame Rucois qui vint ouvrir, aussitôt troublée dans sa timidité. « Nous sommes des amis de M. Gustave Mourez, » dit Madame Cassagnole. « Son silence prolongé nous inquiète et nous venons voir. »« Veuillez entrer !» Madame Rucois, de son pas court et précipité, les conduisit dans la salle à manger vers le maître qui, seul au milieu de ses livres, travaillait assidûment, son petit dos noir en boule, sa tête maigre embroussaillée de cheveux gris et roux. Madame Rucois, qui avait besoin de rêver toujours au fond de son cœur très bon, chérissait beaucoup Gustave. Voyait-elle en lui le sauveur de son foyer, le fiancé probable de sa fille? Il apportait au moins chez elle l'air vivifiant du dehors, une clarté souriante d'avenir. Gustave, de son côté, par ses fréquentes évocations de la ville charmante de Marennes, de la maison adorable où ses parents ne cessaient de penser à lui, avait ranimé ce foyer des Rucois avec les souvenirs et les aspirations de son âme. Et désormais, tout ce qui participait de lui, de sa pensée ou de son existence, les touchait tous ensemble à l'intime de leur être. Madame Rucois, un peu précieuse en sa civilité, offrit des sièges aux deux visiteuses, puis fit signe d'entrer à sa fille qui se tenait sur le seuil de la salle. Le maître s'était levé nonchalamment, encore dans la brume de son travail, pour se rasseoir contre un chiffonnier. Madame Cassagnole, très calme, très à l'aise dans cet intérieur de poète dont le désordre et la poussière décelaient une gêne, s'exprima gentiment d'un peu haut. « Pardonnez-moi de me présenter ainsi. »« Oh, madame !» se récria le maître, « des amis de notre cher Gustave ne nous dérangent pas. »« Il doit vous avoir parlé de nous, des Cassagnoles. » « Souvent, madame. Nos deux familles ont toujours été si unies. Ma fille et lui ont été élevés en bons camarades pendant des années. Eh bien, vous comprenez que je ne m'explique pas l'indifférence de Gustave à notre égard. Je suis affligée de ne pas le rencontrer ici. Il vient à peine de sortir. Nous n'avons donc plus de chance avec lui. Mon père, qui habite toujours là-bas, à Marennes, nous supplie de lui donner des nouvelles de Gustave, et comme nous ne pouvons lui en donner aucune, il semble que nous mettons une mauvaise volonté à ne pas nous occuper de notre jeune ami. Auriez-vous l'obligeance de lui dire que nous l'attendons prochainement, le jour qu'il voudra ? Je lui dirai volontiers votre recommandation, madame. » Tandis que M. Rucois balançait sa longue tête maigre et qui semblait énorme à cause du hérissement des cheveux et de la barbe, Madame Rucois, toujours heureuse de dire du bien de quelqu'un, ajouta « ne croyez pas à l'indifférence de cet enfant. Il a tant de douceur de parler de ses amis, de tout ce qui vient de sa province. » Je le sais, madame, son silence m'alarme d'autant plus. » Jeanne, qui, par politesse, ne prenait point part à la conversation, se complaisait, non sans insistance, à observer la jeune fille dont Gustave évoquait parfois l'image familière. Amélie, attentive, méfiante sous son maintien affecté de candeur, devinait en Jeanne l'émotion d'une rivalité satisfaite. Mais elle craignait bien plus de trahir en ses manières la modestie de son origine paysanne que d'être à son tour pénétrée dans les dissimulations de son âme légère. Malgré tout, elle éprouvait une douleur de se contraindre et, se tournant à plusieurs reprises vers la fenêtre radieuse, elle fuyait les regards pénétrants et loyaux de Jeanne. Cependant, Madame Cassagnol, qui se croyait supérieure parce qu'elle était richement habillée, ne tarissait point d'éloges sur le compte de Gustave et de ses parents. On eût dit qu'elle embellissait Gustave de toutes les vertus pour mieux recommander aux Rucquois le bon parti qu'il pouvait être pour leur fille. Elle se leva, contente de sa personne et de son bavardage. Puis Amélie, qui, maladroitement, soupira de lassitude. Le maître, se réveillant de ses songes, suivit les deux visiteuses dans le couloir avec force salutations, et sur le seuil de l'appartement, il répéta les promesses de sa femme. « Nous sermonnerons cet enfant, madame. Il ira vous voir. »« Bientôt ?»« Bientôt !» répondit Jeanne. Celle-ci referma doucement la porte sur le palier noyé d'ombre. De nouveau, elle rentra dans la cuisine, tandis que madame Rucquois regagnait sa chambre, qui, au fond de l'appartement, lui servait un peu de cellule. Déjà, le maître, repris par son ouvrage, ne pensait plus à rien des choses de ce monde. Jeanne, en raclant des carottes à la clarté de la fenêtre, ne tenait pas de joie sur sa chaise. Le rêve d'amour, comme une abeille d'or parmi les rayons du soleil, s'agitait dans sa tête. Elle se sentait plus jeune encore, peut-être aussi plus jolie, parce qu'elle était heureuse. Elle n'avait pas été longtemps à saisir, dans la démarche des amis de Gustave, une intention d'intérêt personnel. Il lui suffisait à présent de savoir que Madame Cassagnol ne considérait Gustave que comme le camarade de sa fille, un ami familier. Si elle se plaignait toutes les deux de son silence, c'est que vraiment, depuis qu'il habitait Paris, il avait rompu ses relations d'autrefois, l'attache de ses pensées et de ses habitudes, si douce en la calme vie de marraine. Aujourd'hui, Jeanne le voyait de plus en plus libre chez elle, plus soumise à ses soins, plus content de lui-même et des autres. Certes, il n'avait pas prononcé le moindre mot que ses parents à elle ne pussent entendre. Néanmoins, sans en chercher l'occasion, ils avaient quelquefois, par un éclat plus vif de leur regard, par un frémissement de leurs doigts confondus une seconde, éprouvé une volupté chaste, secrète, de partager sous le même toit la même lumière. Mais dans son cœur, la joie devint trop forte. De même qu'en été, le feu du soleil rassemble sur la terre un orage rapide, de même la ferveur de son désir trop beau provoqua chez Jeanne de la crainte et de la douleur. Ne se leurrait-elle point d'illusions et de mensonges? Qu'il l'estima comme une compagne agréable et généreuse, comme la fille d'un maître affectionné, oui, elle pouvait sans hésitation l'admettre. Mais l'aimerait-il assez, dans la misère obscure à laquelle, depuis tant d'années, elle était asservie, pour faire d'elle sa femme? Pour la première fois, ses yeux, son âme, se troublèrent en leur innocence. Alors, parce qu'elle voulut ranimer son courage et son désir, elle se promit de surprendre ce soir même chez Gustave le fond de sa pensée. Sérieux, méthodique, Gustave ne manquait jamais les heures. Ce soir, pourtant, à l'heure du dîner, il n'était pas encore rendu rue Merlin. Jeanne s'inquiétait en cachette, à l'insu de ses parents, lorsqu'il arriva, tout bruyant, d'une gaieté qui ne lui était pas coutumière. Alors, par une appréhension subite, au lieu de le rejoindre dans la salle à manger, afin de laisser à ses parents tout loisir de lui raconter la visite de Madame Cassagnol et de sa fille, elle resta discrètement dans la cuisine. Elle l'entendit rire aux éclats, retentir de sa voix méridionale qui se faisait railleuse. Sur l'ordre réitéré de sa mère, elle apporta la soupe, la bonne soupe de famille, dont l'odeur chaude embaumait l'appartement. Déjà, ses parents et Gustave étaient assis à table, leurs serviettes dépliées. lorsqu'elle prit en face de lui sa chaise, il lui jeta un regard de gentillesse. Aussitôt, elle lui dit, un peu timide, « Vous savez que ces dames... »«
Oui, je sais, elles me recherchent à présent. »«
C'est tard. »«
Pourquoi ? Vous n'irez donc pas les voir ? Elles ont beaucoup insisté. »
Le cœur de Jeanne tremblait, ainsi que ses lèvres. Lui, sans dissimuler sa répugnance, repartit.
« Allez, rue Toulier ! Si elles ont beaucoup insisté, c'est qu'elles doivent avoir besoin de moi. Vous me connaissez suffisamment pour estimer que je n'aurais jamais commis la moindre négligence envers de vieux amis qui m'auraient fait du bien. Or, les Cassagnoles m'ont bien laissé me débrouiller tout seul dans Paris. Sans vous, que serais-je devenu ?
Avec du travail, on se sort toujours d'affaires. En tout cas, ces dames paraissent vous aimer beaucoup. »
Oui, elles paraissent. Après tout, ça ne me déplaît pas qu'elles soient venues me chercher jusqu'ici, même ça me flatte.
Il faut que vous alliez rue Toulier, mon enfant, dit Madame Rucois. Sinon, ces dames s'imagineront que c'est nous qui vous en avons empêché.
Bien, cette raison me décidera. Mais pour l'instant, ce n'est pas elle qui m'intéresse.
Gustave acheva vivement sa soupe, s'essuya les lèvres. Puis, tapotant la table de ses doigts, il poursuivit.
« Eh bien, donc, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, le fameux nain jaune, où il est si difficile d'écrire, a accepté de moi une nouvelle. »«
Ah ! » dit Jeanne radieuse. « Bravo, bravo ! Je ne le savais pas, moi. »«
C'est vrai, vous n'étiez pas là tout à l'heure.
Ah ! Qu'ils vont être contents à ma reine !»
Gustave agitait fébrilement son couteau, souriait à Jeanne, à sa mère, qui, toutes les deux, naïves, le regardaient avec adoration. Enfin, il se tourna vers le maître qui, au lieu de répondre à son enthousiasme, insinuait précautionneusement, entre les poils fous de sa barbe, de petites cuillerées qui lui semblaient brûlantes.
« Eh bien, monsieur Rucois, vous me disiez que c'était un miracle d'entrer au nain jaune. J'y suis. Voilà le miracle.
Il s'agit d'y rester.
Ah ! Personne plus que moi ne peut se réjouir de vos succès. »
Mais un conseil, prenez garde de vous enivrer trop tôt de ces succès et ne croyez pas avoir déjà toute bataille gagnée. En littérature, sachez-le, on n'est jamais arrivé, il faut toujours repartir. Peut-être y a-t-il pour un jeune homme de graves dangers à rencontrer trop vite la chance.
Pourquoi ?
Parce qu'on s'endort sur ses lauriers, parce qu'on se prend tout de suite pour un grand homme. Et plus tard, à la moindre défaite, on se décourage. « Moi, à votre place, je mettrais une sourdine à mon enthousiasme. »«
Sans doute, vous avez raison. Pourtant, vous savez que je ne pêche guère par un excès de hardiesse ou d'outrecuidance. Du moins, ce succès d'aujourd'hui a ceci d'avantageux qu'il m'encourage dans la bataille. »«
Oui, oui. Ah, que vous êtes jeune !»
Monsieur Rucois trahissait dans son accent une amertume étrange. C'est qu'il ne pouvait plus, depuis longtemps, malgré ses relations, décider un journal quelconque à publier le moindre de ses articles. Et dans la conviction agréable d'une supériorité qu'il s'était accoutumé à s'attribuer vis-à-vis de son secrétaire, un involontaire sentiment de jalousie le poignait. Tandis que sa figure roussâtre, plissée de rides, s'enveloppait d'un nuage d'ennui, il leva ses yeux qui clignotaient derrière les verres de son lorgnon, et pour détourner une conversation qu'il sentait pénible, il parla sur un ton de persiflage de la visite des dames de Marraine.
« Alors, vous négligez vos amis de là-bas, Gustave ?»«
Mes amis, le sont-elles vraiment ?»«
Eh hé, la jeune fille me paraît si triste !»«
Depuis qu'elle habite Paris, je suis pour elle trop peu de choses. » »«
Ne soyez pas méchant, Gustave !»«
Je ne le suis pas !» Mais il me tarde de savoir ce qu'elles attendent de moi. Ça va être amusant. »
La pensée de son succès littéraire éblouissait Gustave d'un tel orgueil qu'il n'apercevait pas chez son maître le frémissement mal contenu de l'envie, ni chez Jeanne une anxiété douloureuse qui la tenait immobile, sans force. Dès la fin du repas, il prit congé, non sans quelque hâte. Le maître lui serra la main du bout des doigts par-dessus la tête baissée de Madame Rucois qui sommeillait sur sa chaise. Tandis qu'il franchissait le seuil de l'appartement, Jeanne sortit de la cuisine pour le saluer.
« Bon courage, à demain !»«
À demain !» répondit-il en souriant.